Vous écoutez, on lit pour vous.
Le français au travail reste stable au Québec, mais l'anglais l'accompagne plus souvent. Un texte de Mathieu Paquette de la presse canadienne, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. La proportion de Québécois qui utilisent uniquement le français au travail est en baisse dans la province, alors que de plus en plus de travailleurs doivent incorporer l'anglais à leur quotidien, selon les plus récentes données de l'Office québécois de la langue française, OQLF. Dans l'édition 2023 de son rapport sur la langue de travail au Québec, l'OQLF révèle que 66% des travailleurs adultes utilisent le français au moins 90% du temps dans le cadre de leur emploi, soit une proportion similaire à celle des études de 2016, 67%, et de 2010, 66%. Toutefois, même si le français a toujours sa place sur le marché du travail québécois, l'OQLF a noté que les travailleuses et travailleurs du Québec l'accompagnent de plus en plus de l'anglais dans le cadre de leurs fonctions. Cela fait en sorte que la proportion de Québécois qui utilisent exclusivement le français au travail est passée de 39,5% en 2016 à 32,2% en 2023. Cela démontre qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour que le français reprenne la place qui lui revient. Travailler en français, c'est un droit inscrit dans la Charte de la langue française, a réagi le ministre de la langue française Jean-François Roberge par écrit. Lorsque les répondants à l'étude de l'OQLF ont été questionnés sur les raisons qui les poussent à utiliser une autre langue que le français au travail, 30,6% ont répondu qu'ils doivent le faire principalement pour servir une clientèle, communiquer avec des personnes ou consulter des documents de l'extérieur du Québec, tandis que 29,3% d'entre eux ont dit devoir le faire pour servir une clientèle québécoise parlant une autre langue. Ils ont été 16,2% à répondre que leurs collègues parlent d'autres langues que le français ou que les réunions se font dans une autre langue que le français au sein de leur entreprise. Surtout chez les jeunes. Les jeunes sont particulièrement affectés par ce phénomène. Chez les 18 à 34 ans, seuls 22,3% des travailleurs utilisent exclusivement le français dans le cadre de leur emploi, soit presque deux fois moins que ceux de 55 ans et plus, 41,3%. Ces données confirment que les travailleuses et travailleurs plus jeunes utilisent moins le français au travail que les plus âgés, a souligné l'OQLF dans son rapport. Plus largement, 58,2% des travailleuses et travailleurs de 18 à 34 ans travaillent en français au moins 90% du temps, alors que c'est le cas pour plus des deux tiers, 68,9%, des personnes de 45 à 54 ans, et pour 70,5% de celles de 55 ans et plus, précise l'organisme. L'Office québécois de la langue française a également observé un lien entre le niveau de scolarité et l'utilisation de l'anglais, notant que les personnes ayant un plus haut niveau d'études font une plus grande utilisation de l'anglais au travail. Il a relevé que les personnes qui détiennent un diplôme d'études professionnelles, DEP, un diplôme d'études secondaires ou qui n'ont pas de diplôme sont proportionnellement plus nombreuses à utiliser exclusivement ou généralement le français au travail, 72,1%, que celles qui ont un diplôme universitaire, 54,9%. Pas seulement à Montréal. Sans surprise, la proportion de travailleurs qui utilisent uniquement le français dans leur quotidien professionnel est plus faible à Montréal, 18%, que dans l'ensemble de la province, 32,2%. Malgré tout, selon l'OQLF, l'usage du français au travail est demeuré stable sur l'île de Montréal entre ces enquêtes de 2010 et de 2023. C'est plutôt à l'extérieur de la métropole qu'un changement a été observé. Dans l'ensemble du Québec, à l'exception de l'île de Montréal, les travailleuses et travailleurs ont tendance à délaisser l'utilisation exclusive du français pour une utilisation générale. Ainsi, la proportion de personnes faisant une utilisation exclusive du français a diminué de 7,9 points de pourcentage, passant de 46,7% en 2010 à 38,8% en 2023, a souligné l'organisme. À l'échelle provinciale, les personnes qui sont capables de s'exprimer tant en français qu'en anglais sont d'ailleurs plus souvent appelées à parler en anglais au travail. Si un quart, 25,8%, des travailleurs en mesure de s'exprimer dans les deux langues travaillaient exclusivement en français en 2016, ils représentent plutôt un cinquième, 20,4%, en 2023, signe que plus d'entre eux travaillent généralement en français tout en étant appelés à utiliser l'anglais de temps à autre. Les anglophones travaillent plus en français. Dans sa déclaration écrite, le ministre Roberge s'est réjoui de voir que la proportion de personnes anglophones qui travaillent exclusivement ou généralement en français est en hausse depuis 2010, alors que celle-ci est passée de 8,2% en 2010 à 13,7% en 2023. C'est une avancée qui a été possible grâce à la loi 96, mais nous sommes conscients qu'on doit en faire plus, a-t-il reconnu. Adopté en mai 2022, le projet de loi 96, présenté par le gouvernement comme une modernisation de la Charte de la langue française, a imposé des obligations aux employeurs pour assurer le respect du droit des travailleurs à exercer leurs activités en français. Plus de la moitié des anglophones, 54,0%, disent toujours utiliser le français occasionnellement au travail, soit moins de 50% du temps. L'OQLF a produit son rapport à la suite d'un sondage réalisé entre mai et septembre 2023 auprès de 7932 travailleurs de partout au Québec. C'était « Le français au travail reste stable au Québec, mais l'anglais l'accompagne plus souvent », un texte de Mathieu Paquette de la presse canadienne, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir.
Sommes-nous condamnés à vieillir malades? Un texte d'Hélène David, paru le 6 février 2024 dans La Presse. Le sport, les saines habitudes de vie, la bonne alimentation, la modération en toutes choses, toutes ces injonctions sont amplement documentées et exercent sur nous un sournois sentiment de culpabilité. La question des facteurs protecteurs de la santé m'habite depuis longtemps, sûrement influencée par la mort de ma mère, emportée par un cancer beaucoup trop tôt, ou par mon père, dont un grave AVC a brutalement interrompu la vie active, sa vie en santé. Il n'a sûrement pas passé les dernières années de sa vie comme il l'aurait souhaité. Normal? Inévitable? Probablement que non. Aide-toi et le ciel t'aidera, disent le proverbe et la science. Regardons quelques faits avec le docteur Martin Junot, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, ICM, spécialiste de la prévention. Martin Junot s'est battu, le mot n'est pas exagéré, toute sa carrière pour convaincre les gouvernements, la population en général et ses patients en particulier, de l'importance d'adopter de saines habitudes de vie. Pas par entêtement ou par lubie, mais parce qu'il est habité par des convictions profondes basées sur les plus grandes et sérieuses recherches scientifiques au monde. Les statistiques que me donne Martin Junot sur la qualité de vie pendant notre dernière décennie à vivre donnent froid dans le dos. Vous êtes jeune, sédentaire. Vous ne vous alimentez pas très bien. Vous avez un tour de taille un peu plus élevé. Et vous consommez trop d'alcool? Eh bien, vous risquez de handicaper sérieusement vos 10 dernières années de vie. Au lieu de mourir en moyenne vers 80 ans en bonne santé, si vous faites ce qu'il faut, vous allez vivre vos 10 dernières années diminuées par des maladies chroniques. Donc, oui, on meurt plus vieux qu'avant. Mais dans quel état? Martin Junot a des chiffres alarmants sur les conséquences de ne pas se prendre en main. Il a dirigé pendant de nombreuses années le centre EPIC de l'ICM et a fait de la recherche de pointe pour prouver qu'on peut et qu'on doit inverser la tendance face aux facteurs de risque de maladies chroniques. Oui, les pilules peuvent nous soigner, diminuer nos symptômes, retarder notre mort. Mais pourquoi risquer une piètre qualité de vie alors que les recherches démontrent très bien qu'on peut prévenir l'obésité, le diabète, une bonne partie des maladies cardiovasculaires, plusieurs cancers et retarder les démences en adoptant ces habitudes à n'importe quel moment de sa vie? Martin Junot se tue à le répéter sous toutes les déclinaisons possibles depuis près de 40 ans. Je l'interroge. Vos batailles ont-elles donné quelque chose? Que vous ont répondu les gouvernements que vous avez tenté de sensibiliser toutes ces années? Sa réponse est directe. Ça n'a pas donné grand-chose. Les dépenses du gouvernement en prévention représentent une goutte d'eau sur un budget de 50 milliards. Jamais les mesures de prévention ne bénéficieront de la même priorité gouvernementale que les traitements pharmaceutiques ou technologiques, se désole le docteur Martin Junot. Les bénéfices des mesures de prévention se font sentir à moyen et à long terme. C'est donc très peu payant politiquement. Les médicaments, c'est bien, mais ça coûte très cher, alors qu'on pourrait notamment consacrer une fraction de cet argent à engager des kinésiologues, des nutritionnistes et des psychologues dans tous les groupes de médecine de famille, GMF. Vous ne trouvez pas que ce discours ressemble à celui sur les changements climatiques? Une vue à court terme? La crainte de mesures trop difficiles à appliquer? Le report des problèmes à plus tard? Et hop! Un jour, on se retrouve avec un problème cardiaque, ou un diabète, ou un cancer, ou des incendies de forêt, des inondations et des records de chaleur extrêmes partout sur la planète. Le déclic sur la prévention appliquée à notre propre santé ne se fait pas automatiquement. Pendant mes années intenses de vie politique, j'ai tout à coup décidé de me prendre en main, de retrouver mon poids santé, de cesser complètement l'alcool, de m'entraîner sérieusement. Et vous savez quoi? Je ne me suis jamais sentie aussi en forme et en pleine possession de mes moyens. Où ai-je trouvé cette motivation et cette détermination? En vérité, je ne le sais pas trop. Un sentiment d'urgence devant les années qui passent trop vite, les gens malades que l'on côtoie, ou les proches, morts, qui, comme mon père, ont vécu cette piètre qualité de vie pendant leurs dernières années de vie. Ce qui crée en nous cette motivation demeure souvent nébuleux, mais si nous osons le premier pas de notre remise en forme, on constate que le plaisir croît avec l'usage. Cette prévention nous rend-elle invulnérables? Bien sûr que non. Mais au moins, nous maximisons les conditions pour pouvoir profiter de notre dernière décennie en santé. Martin Junot est catégorique. Les sociétés développées foncent dans un mur, dans le mur du déni et de la complaisance. Au point où, pour la première fois en plus d'un siècle, les jeunes occidentaux nés au début des années 2000 vont vivre moins longtemps que leurs parents, en raison notamment de l'épidémie d'obésité. Martin Junot a tout donné depuis 40 ans en matière de prévention. Don Quichotte devant l'Éternel? Peut-être. Mais sa voix doit résonner encore plus fort et très longtemps pour que nous puissions, comme société, améliorer non seulement notre espérance de vie, mais surtout notre espérance de vie en santé. C'était « Sommes-nous condamnés à vieillir malades? » Un texte d'Hélène David paru le 6 février 2024 dans La Presse.
Les évêques du Québec prêts à discuter de l'avenir des églises. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 17 janvier 2024 dans Le Devoir. Les évêques souhaitent discuter du sort des églises du Québec. Nous voulons tous que ça ne tombe pas en ruine, explique Mgr Pierre Murray, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, en réponse au cri d'alarme lancé par le groupe de citoyens Porte ouverte. Nous savons que les églises font partie du patrimoine des Québécois et qu'elles sont importantes. Ça fait des années qu'on demande du soutien. La question du patrimoine revient sans cesse dans nos discussions. Mais peu importe le parti au pouvoir, on nous dit que c'est important, mais rien n'aboutit jamais, regrette Mgr Murray en entrevue au Devoir. Les évêques ont cru bon réagir collectivement pour ne pas décourager des initiatives. Des gens ont de bonnes idées, nous voulons bien nous asseoir avec eux, à condition qu'ils n'oublient pas qu'ils sont, pour le moment du moins, les propriétaires de ces bâtiments qui en assurent le maintien. Les évêques évoquent, dans une lettre commune, des échanges à avoir dans le cadre des structures actuelles ou peut-être à l'occasion d'un événement consultatif particulier de type « États généraux ». Quelle laïcité ? La compréhension actuelle de la loi sur la laïcité n'aide pas à trouver une solution pour des bâtiments qui dépérissent, font remarquer les évêques. En plusieurs lieux, explique Mgr Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme, les fabriques pourraient être encore très utiles dans des projets de reconversion. Ce sont souvent les seuls groupes solidement constitués autour desquels il serait possible de construire des projets. Mais une mauvaise compréhension de la loi sur la laïcité les exclut d'emblée de la discussion, alors que ce sont eux qui tiennent à bout de bras ces églises depuis des décennies. Alors il faudrait que les églises soient cédées à des groupes dont on ignore souvent s'ils sont assez solides pour tenir la route avant même de commencer à discuter, avant que les projets soient vraiment lancés. Cette façon d'envisager l'avenir des églises les plombe plus qu'elle les aide, croit-il. Mgr Poisson plaide pour une compréhension mutuelle des intérêts de chacun. Tenez, par exemple, nous venons d'accueillir chez nous les sœurs de Sainte-Anne. Elles ont laissé leur grand bâtiment de la Chine être transformé en résidence communautaire. De façon générale, c'est le sens donné aux transformations de bâtiments religieux que privilégie l'Église, dit-il. C'est dans ce sens communautaire que nous allons partout. Pour ma part, je n'ai jamais vendu une seule église à un promoteur. Il ne faut pas oublier que dans les sous-sols des églises existent, encore aujourd'hui, quantité de groupes sociaux qui n'ont absolument pas les moyens de se payer des loyers commerciaux. Ça compte dans une communauté. Nous pensons qu'il faut encourager ça et que ça doit être dans l'équation. Les projets de reconversion doivent soutenir une vision sociale, affirme Mgr Poisson. À Saint-Jérôme, nous venons de convenir du prêt d'une église pour en faire un espace multiservice. Elle est par ailleurs utilisée encore une heure par semaine pour des fins religieuses. Quel est le mal à cette mixité des usages? Demande-t-il. Dans plusieurs cas, ce pourrait être une voie d'avenir. Une rencontre au sommet. L'évêque de Saint-Jérôme souhaiterait, pour commencer, des rencontres avec l'État et les municipalités. Si on veut aller plus loin, il faut dépasser le stade des fonctionnaires. Il faut aller du côté du politique. Les solutions sont multiples pour les églises parce que la situation varie d'un endroit à l'autre. Mais il est certain que ce sont des édifices anciens, des architectures hors normes, des édifices mal isolés, des systèmes mécaniques dépassés. Je crois que dans beaucoup de cas, l'idée de vouloir transformer ça en logement est irréaliste. Les programmes et la façon qu'a l'État d'envisager l'avenir des églises sont à repenser, laisse-t-il entendre. Dans sa lettre adressée au Devoir, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec affirme que, dans toutes les régions, les diocèses et les fabriques propriétaires d'églises et de bâtiments attenants réfléchissent activement aux différentes façons d'assurer leur entretien, leur chauffage et leur restauration, y compris en envisageant la désacralisation des lieux et leur vente ou leur cession. L'exemple de l'État. Monseigneur Pierre Murray considère que plusieurs anciens bâtiments au passé religieux ont été cédés sans que l'exemple de leur bon entretien ne soit donné, même par l'État. L'État n'a pas de leçon à nous donner en matière d'entretien des bâtiments, renchérit de son côté Monseigneur Raymond Poisson. Regardez nos écoles, nos hôpitaux. Prenez les cas de la bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal, poursuit Monseigneur Murray. Ce n'est pas une église, mais son lien historique avec le monde religieux est important, fait-il valoir à raison. Le lieu, bien qu'extraordinaire, est abandonné depuis des années. Il tombe en ruine. Il évoque aussi l'ancien Institut des sourdes muettes rue Saint-Denis. Voilà un lieu qui se prêterait très bien à une reconversion en logement. Qu'est-ce qu'on attend? La chapelle pourrait servir de salle communautaire ou de spectacle. Pourtant, c'est abandonné depuis que l'État a décidé de ne plus l'utiliser. C'est l'indifférence générale, déplore-t-il, tout en affirmant en avoir déjà assez sur les bras de son côté avec les bâtiments dont l'Église catholique est toujours propriétaire. C'était Les évêques du Québec, prêts à discuter de l'avenir des Églises, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 17 janvier 2024 dans Le Devoir.
3 conseils pour prendre soin de votre dos. Un texte de La Presse Extra Santé, paru le 5 février 2024 dans La Presse. Au Canada, les maux de dos font partie des problèmes de santé incapacitants les plus fréquents. Au-delà des conséquences physiques, ces maux peuvent entraîner de nombreux contre-coups sociaux, financiers et même psychologiques. C'est, entre autres, pourquoi vous devriez prendre un soin tout particulier de votre colonne vertébrale ainsi que des groupes musculaires et des nerfs qui l'entourent. Voici quelques conseils pour vous aider. 1. Soignez votre posture. Portez attention à votre posture dans vos activités quotidiennes, que ce soit au travail, dans les sports ou encore à la maison, est primordial pour préserver la santé de votre dos. Cela permet, par exemple, de limiter le stress sur vos articulations et vos muscles, affirme le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association des chiropraticiens du Québec. Selon ce professionnel de la santé, vous devriez garder la nuque droite et les épaules détendues, tant en position debout que lorsque vous vous asseyez. Au bureau, il est recommandé d'utiliser une chaise qui supporte bien le bas de votre dos, de conserver vos coudes près de votre corps, de poser vos pieds à plat sur le sol ou d'utiliser un repose-pied et d'éviter de croiser vos jambes ou vos chevilles, genoux et hanches formant un angle de 90 degrés. Vous vous servez quotidiennement d'un téléphone intelligent ou d'une tablette électronique? Il vous suggère de tenir votre appareil à la hauteur de vos yeux, afin de ne pas avoir à incliner la tête. Dans ma pratique, Je vois de plus en plus de gens qui présentent des douleurs à la nuque et aux épaules à la suite d'une utilisation prolongée de ces appareils mobiles, dit-il. 2. Bouger souvent. L'immobilité est l'un des éléments qui peuvent nuire considérablement à la santé de votre dos. C'est la raison pour laquelle le Dr Corbin recommande souvent à ses patients et patientes de bouger durant la journée. Par exemple, j'invite les gens qui font un travail sédentaire à bouger, à se lever, à marcher un peu ou à s'étirer toutes les heures pour diminuer les tensions et les raideurs qu'ils pourraient ressentir. Le mouvement active la circulation sanguine et cela contribue à irriguer les tissus. Il conseille régulièrement aux personnes qui le consultent d'effectuer, plusieurs fois par semaine, des exercices d'équilibre et de stabilité, comme la planche ou les fentes. Leur pratique permet notamment de renforcer les muscles du tronc et de réduire les risques de développer un mal de dos. Bien sûr, vous devez respecter vos limites. Votre chiropraticien est d'ailleurs en mesure de vous proposer un programme d'exercices personnalisés. Ce programme pourra inclure des exercices de mobilité, d'étirement et ou de renforcement en fonction de votre condition physique, de l'objectif fixé et de l'activité pratiquée, souligne le professionnel de la santé. 3. Réfléchissez avant d'agir. Chaque année, le Dr Guillaume Corbin rencontre de nombreuses personnes qui se sont blessées en posant des gestes anodins, que ce soit en transportant des sacs d'épicerie, en déplaçant des boîtes ou même en vidant un lave-vaisselle. Pour soulever une charge, peu importe son poids, il faut la garder près de soi, forcer avec les jambes, contracter les muscles du tronc et garder le dos droit. Les mouvements de flexion vers l'avant et de torsion du tronc sont particulièrement risqués et, donc, à éviter le plus possible, indique le professionnel de la santé qui ajoute « Par ailleurs, n'hésitez jamais à demander de l'aide si vous devez faire une activité trop exigeante pour vous ou à découper la tâche au besoin. Un accident est si vite arrivé. » C'était 3 conseils pour prendre soin de votre dos. Un texte de La Presse Extra Santé, paru le 5 février 2024 dans La Presse.